Santé.
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 C'est bon pour la 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 santé.
Bon mercredi, j'espère que vous allez bien, Marianne Paquette, qui vous accompagne avec grand plaisir pour les 60 prochaines minutes. Et oui, c'est bon pour la santé, qui débute à l'instant sur Canal M. Aujourd'hui, Joanne Savard est la directrice de l'Association de la vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle. Elle nous parle des défis que rencontrent les personnes âgées qui vivent en situation de handicap. Tout juste après, Dr. Philippe Archambault, lui, chercheur pour le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation, le CRIR, nous présente un jeu qu'il a mis au point avec son équipe et qui permet d'innover en matière de réadaptation pour les personnes avec une déficience visuelle. Ça risque d'être très intéressant, tout ça en deuxième partie d'émission. Je discute également avec Marie-Hélène Poulin, elle est professeure en psychoéducation et directrice du module des sciences du comportement de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Marie-Hélène Poulin sera là pour nous parler de la trousse de sensibilisation par le mois de TSA qui permet de mieux expliquer ce qu'est le trouble du spectre de l'autisme auprès du grand public. Et finalement, un sujet d'actualité, les saines habitudes de santé bucco-dentaire, et ce, même à l'Halloween, hein, qui s'en vient. Dans quelques jours, Dr. Marie-Ève Asselin, dentiste pédiatrique, chef du département de dentisterie pédiatrique à l'hôpital Sainte-Justine, est là au bout du fil pour nous donner quelques détails. Docteur Asselin, bonjour.
Bonjour.
La carie, principale maladie infantile chronique, ça peut concerner bien des parents qui nous écoutent et des plus grands également, parce que, bon, tout le monde aime ça, les bonbons, tout le monde aime ça.
Moi, la première.
Le chocolat aussi. Oui. Vous êtes là pour nous parler de prévention, de modération, mais également de santé globale chez l'enfant, oui. Parce que ce qui retient l'attention, du moins la mienne, là, d'entrée de jeu, c'est que la carie, c'est une maladie qui est chronique.
C'est une maladie qui est infectieuse chronique et c'est la maladie infectieuse chronique qui est la plus prévalente chez nos jeunes enfants québécois.
Oui.
Donc, c'est un véritable problème de santé publique là, à l'heure actuelle, malheureusement, oui.
Est-ce que le sucre, donc bonbons, chocolat, suçons, caramel, est la principale cause des caries?
C'est une maladie qui est multifactorielle. Donc, il y a évidemment ce que vous mangez, donc évidemment la quantité de sucre là, que vous allez ingérer. Ce qui est aussi important de tenir en considération, c'est que c'est pas nécessairement la concentration en sucre, mais c'est la fréquence. Donc, à chaque fois que vos dents sont exposées à un aliment sucré, il y a des bactéries qui sont présentes dans la bouche qui vont métaboliser ces sucres-là en acide et il va y avoir une destruction de la structure dentaire. Donc, on va développer des caries. Donc, c'est pire de consommer quelque chose qui n'est pas nécessairement extrêmement sucré, mais de façon là, plein de fois durant la journée, comparativement à prendre quelque chose qui est super sucré, mais une fois.
Oui.
S'il y a un moment là où c'est important, si on veut, bon, on a tous le droit d'avoir des petites gâteries là, ici et là, mais le moment idéal pour le faire, c'est vraiment au moment du repas. Parce qu'il y a plus de salive dans la bouche. Et généralement aussi, on va brosser nos dents après un repas, comparativement à une collation ou au retour de l'école. On donne un aliment sucré là, aux enfants dans la voiture.
Donc, préférable de consommer les friandises en dessert qu'en collation en plein après-midi.
Absolument, oui. Et évidemment, limiter là, la fréquence. Oui.
Oui. Ce qui est important aussi, et vous l'avez mentionné, c'est que si on mange sucre, bonbons, caramel, c'est le brossage et l'hygiène dentaire là, qui prend énormément de place dans la prévention.
Tout à fait. Donc, c'est important de brosser nos dents après chaque repas, mais de commencer de façon très, très précoce. Donc, dès qu'il y a une dent dans la bouche de l'enfant, il faut commencer à la brosser.
Mm-hmm.
Ce qui est important aussi, c'est que le parent doit être responsable du brossage. Souvent, on va laisser le jeune enfant là, de 3, 4, 5 ans brosser lui-même ses dents. Moi, je dis quand En général, là, il faut superviser le brossage, surtout celui du soir qui est le plus important parce que, bon, on va passer là, à peu près 7, 8, 9 heures à dormir. Il y a moins de salive durant la nuit. Donc, le brossage du soir doit absolument être supervisé là, par le parent. On va passer le fil de soie dentaire aussi et utiliser un dentifrice qui contient du fluor.
On commence à partir de quel âge?
Dès qu'il y a une dent.
Ah, dès qu'il y a une dent. Ouais,
absolument.
C'est assez précis. Moi, ce que j'entends souvent, et c'est peut-être un mythe, vous allez pouvoir me le dire, Dr. Asselin, c'est bon, c'est pas trop important. De toute façon, il va les perdre, ces dents-là.
Bien, c'est quelque chose que moi, j'entends tous les jours. C'est vrai que les dents primaires vont s'exfolier là, à un moment ou à un autre, mais c'est pas si... en fait, on va conserver certaines dents de bébé jusqu'à l'âge de 10, 11, 12, 13 ans.
Mm-hmm.
Donc, si on a des caries en bas âge, genre, vers l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a quand même plusieurs années là, avant que cette dent-là tombe, donc plusieurs années pour avoir des problèmes, oui.
Mm-hmm. On pourra dire ça maintenant aux parents que l'on a en tête, vous et moi.
Oui.
Maintenant, d'instaurer cette routine-là, ça peut être un peu plus complexe pour certains parents. Est-ce qu'il y a des petits trucs pour faciliter?
Bien, complexe, oui et non. C'est sûr qu'un tout petit enfant, souvent, va s'opposer au brossage, comme il pourrait s'opposer à prendre un bain le soir ou à brosser ses cheveux. Mais si on le fait de façon routinière, c'est surprenant comment on arrive à bien l'intégrer là, dans la routine. C'est sûr qu'on est très, très occupé en tant que parent. Donc, moi, ce que je dis aux parents... Commencez par le brossage du soir, qui est le plus important. Couchez l'enfant sur son lit ou par terre sur le sol. Vous pouvez vous aider aussi d'un autre adulte ou d'un autre enfant qui va tenir les mains si l'enfant bouge un petit peu.
Mm-hmm.
Puis, une fois que les dents sont brossées le soir, seulement de l'eau. Donc, on évite le lait la nuit ou les liquides gras, là, comme le jus, par exemple, là, dans un biberon, dans le lit de l'enfant.
Et la soie dentaire, ça va aussi de soi avec le brossage?
Oui, en fait, souvent, bon, il y a certains enfants qui vont avoir des espaces entre leurs dents. Donc, s'il y a de gros espaces entre les dents, c'est pas nécessaire de passer le fil de soie dentaire. Par contre, dès que les espaces sont fermés, oui, il faut passer le fil parce que l'enfant est plus susceptible de développer des caries entre ses dents. C'est sûr que c'est pas facile. Moi,
j'ai
toujours... On va contrôler une habitude à la fois. Donc, on commence par faire un très bon brossage. Une fois que ce geste-là sera maîtrisé, on pourra après introduire la soie dentaire. Parce que des fois, si on essaie de changer toutes nos habitudes en même temps, c'est un petit peu utopique, puis on devient découragé, puis on laisse tomber. Donc, une chose à la fois, mais on peut y arriver. Puis, une fois qu'on est habitué, ça prend à peu près là, 1 ou 2 minutes le soir là, avant de coucher l'enfant.
Dr. Maria Vasselin, on explique comment que la carie soit si présente et si fréquente chez les enfants?
Plusieurs raisons. Nos enfants consomment énormément de sucre à l'heure actuelle, principalement sous forme de jus, de boissons gazeuses. L'habitude de prendre de l'eau doit se prendre très bas âge. Souvent, on va donner pour désaltérer l'enfant, on a tendance à lui donner du jus. Si l'enfant est habitué de boire de l'eau en bas âge, il ne va pas demander un liquide là, sucré par la suite. Donc, la quantité énorme de sucre que consomment les enfants, je pense aussi le fait qu'on ne brosse pas peut-être pas assez les dents de nos tout-petits.
Mm-hmm.
Puis aussi, c'est important de visiter le dentiste.
Donc,
la majorité des soins sont couverts par la Régie de l'assurance maladie pour les enfants de moins de 10 ans. Puis ça a été démontré que plus un enfant va visiter le dentiste pour la première fois en bas âge, moins il est susceptible là, éventuellement de nécessiter des soins dentaires. Donc, ce qui est recommandé, c'est que la première visite chez le dentiste se fasse au plus tard au premier anniversaire de l'enfant.
Est-ce qu'il y a des petits trucs pour faciliter le contact avec le dentiste chez les petits? Certains ont peur de vous, Dr. Asselin.
Bien, en fait, c'est normal qu'un enfant pleure chez le dentiste. On dit que l'enfant est pré-coopératif là, jusqu'à à peu près 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Donc, moi, je m'attends à ce que l'enfant pleure quand il vient, l'enfant, le tout petit, le bambin, quand il vient me voir. Mais c'est pas grave, ça. C'est une visite qui est très rapide. C'est une visite qui est souvent axée principalement sur la prévention. On montre comment brosser aux parents, donner des conseils là, au niveau de la diète. Le parallèle que je fais souvent, c'est que vous amenez votre enfant chez le pédiatre pour le faire vacciner en très bas âge. Et il va pleurer aussi. Moi, je ne fais pas de vaccin quand je vois l'enfant là, pour sa première visite. Donc, c'est vraiment un changement au niveau des mentalités parce qu'on amène tout à fait notre enfant chez le pédiatre, il va pleurer, mais on a peur de faire la même chose chez le dentiste alors que c'est une visite où il n'y aura rien qui va faire mal.
Oui. Et en même temps, on parlait tout à l'heure de saines habitudes de vie. Il faut les installer assez rapidement chez notre enfant parce que l'on comprend que la santé bucco-dentaire fait partie d'une santé globale chez l'enfant et même les habitudes alimentaires viennent interférer dans cette santé bucco-dentaire-là et cette santé globale.
Absolument. Puis ce qu'on sait aussi, c'est que c'est très, très difficile de changer des habitudes alimentaires. Donc, l'enfant va être habitué aux aliments sucrés. On dit qu'à peu près là, vers l'âge de un an et demi, ces habitudes-là sont déjà ancrées chez l'enfant.
Mm-hmm.
Donc, faire très, très attention au type de collation qu'on va donner à nos enfants. Donc, éviter les collations qui sont collantes, sucrées comme les barres tendres. C'est des choses qui vont coller aux dents. Les fruits séchés. Donc, en fait, on a retiré l'eau du fruit. Donc, c'est un fruit séché qui va coller aux dents, rester longtemps à la surface des dents. Donc, il contient beaucoup de sucre. Donc, éviter ce genre de collation.
Et les boissons sucrées qui, de plus en plus, est dans la visée des spécialistes de la santé.
Oui, pour les jeunes, mais aussi les adolescents. Souvent, on a des enfants qu'on a vus, qu'on suit depuis de nombreuses années, qui n'ont jamais eu de caries. Puis là, tout à coup, à l'adolescente, ils sont plus autonomes, ils ont de l'argent de poche. Souvent, les adolescents qui font beaucoup de sport vont utiliser des boissons là, sucrées, énergisantes pour se désaltérer. Et on les voit soudainement développer là, beaucoup de caries alors qu'ils n'en avaient jamais eu en bas âge.
Oui. Dernière question, Dr. Asselin, pour l'Halloween, évidemment, c'est un plaisir pour les petits, pour les grands, de manger plus de bonbons, peut-être, qu'à l'habitude.
Oui.
Est-ce qu'il y a des bonbons qu'on doit éviter pour la santé de nos dents?
Bien, en fait, je vous dirais dans l'absolu, éviter tous les bonbons. C'est sûr que les pires, c'est ceux qui collent aux dents parce qu'ils vont rester longtemps là, en contact avec la surface des dents. Mais la journée de l'Halloween, on peut se laisser aller. Là, une journée dans l'année, c'est vraiment pas catastrophique. C'est plutôt durant toute l'année qu'il faut faire attention là, à nos dents, oui.
Oui. Dr. Marie-Ève Asselin, vous êtes dentiste pédiatrique, chef du département de dentisterie pédiatrique à l'hôpital Sainte-Justine. Merci beaucoup, bonne Halloween.
Merci. Et je vous inviterai à consulter le site mabouchensante.com. Il y a plein de conseils, des petites vidéos pour montrer aux parents là, comment brosser les dents de leur enfant.
C'est noté, merci.
Merci, bonne journée, au revoir.
Marie-Hélène Poulin, bonjour.
Bonjour.
Il doit faire froid à Rouen ce matin. À Montréal, il faisait zéro. C'était frisqué.
Ah, oh, c'est à peu près la même température. On a eu notre première neige hier.
Oh oui, quand même. Vous êtes un petit peu en avance. Marie-Hélène Poulin, on parle aujourd'hui de cette trousse de sensibilisation par le mois de TSA. Actuellement, juste pour mettre en contexte, il y a un enfant sur 100 qui est diagnostiqué autiste au Québec. C'est un taux qui augmente de 25% par année depuis le début des années 2000 environ. Donc, mais ça reste assez méconnu, le trouble du spectre de l'autisme. J'imagine que c'est le constat que vous avez fait et ça vient de là, le désir de créer cette trousse.
Oui, en fait, avec la prévalence qui augmente, la population générale a de plus en plus de chances de croiser une personne autiste qui a un TSA, un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble envahissant du développement, en fait, c'est tous des synonymes. Il y a eu des changements mm-hmm. dans la terminologie, là, mais il faut entendre la même chose, en fait, c'est-à-dire des difficultés au niveau de la communication, des interactions sociales et des comportements et intérêts restreints, des comportements stéréotypés et des intérêts restreints.
Oui. C'est une trousse aussi qui prend en considération où est rendu l'interlocuteur. On va y revenir parce que avant, je m'intéresse à savoir à qui s'adresse cette trousse de sensibilisation-là.
Bien, en fait, la trousse s'adresse à toute personne qui désire sensibiliser la population. Mm-hmm. Donc, ça peut être... Il y a plusieurs outils. On va probablement en reparler rapidement, mais il y a plusieurs outils donc qui s'adressent à un public assez varié. Donc, ça peut passer des enfants jusqu'aux adultes qui ont même une base de connaissances. C'est ça, une
barre. Oui, oui. En même temps, elle ne s'adresse pas aux personnes qui vivent avec un TSA, mais elle leur vient en aide d'une certaine façon parce que si on est mieux compris, on évolue un peu mieux dans notre société.
Oui, en fait, c'est le but, c'est vraiment de favoriser l'inclusion sociale des personnes autistes par la compréhension des gens autour, mais les parents aussi, mm-hmm. que les gens jugent moins les parents à travers les comportements de l'enfant autiste en comprenant... toutes les particularités, en fait, du comportement et du fonctionnement cognitif des personnes autistes.
Oui. Et le guide a pris, ou la trousse plutôt, a pris en considération où était rendu l'interlocuteur. C'est ce que je mentionnais rapidement tout à l'heure. Il y a des gens qui ont des connaissances un petit peu plus avancées et d'autres qui sont très débutants devant ce trouble.
Oui, c'est pour ça que la trousse comporte 8 outils, en fait. Donc, il y en a qui vont un peu plus loin dans la compréhension de concepts un peu plus complexes. Si on parle de la théorie de l'esprit, par exemple, de la cohérence centrale, donc c'est des termes beaucoup moins familiers et c'est pour les gens un peu plus aguerris en termes de connaissances. Mais sinon, il y a un petit coin-coin, les Français disent des cocottes, qu'on peut travailler avec les enfants en service de garde, au primaire, puis il y a même une bande dessinée au secondaire qui se travaille bien là, pour des concepts qui peuvent paraître ardus, mais qui, à travers des petits outils ludiques comme ça, ça passe bien.
Mm-hmm. Pour nous, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas nécessairement la trousse devant eux, Marie-Hélène Poulin, c'est quoi les trucs ou... du moins les points essentiels qu'on devrait savoir lorsqu'on a évolué avec une personne qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme?
Bien, en fait, la base, c'est pas pour rien que le trouble, l'appellation a été modifiée et qu'ils ont choisi, qu'on soit d'accord ou pas, mais le terme spectre pour démontrer toute l'hétérogénéité dans la population autiste. Donc, on a des autistes non-verbaux qui vont avoir beaucoup plus de défis à rencontrer pour s'intégrer socialement et même si on vise la participation sociale, tandis qu'il y en a qui vont avoir des défis plus intérieurs, je dirais, parce que c'est pas des défis moindres, mais mm-hmm. qui sont moins apparents. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est quand on a rencontré une personne autiste, bien, on a rencontré une personne.
Oui. Et ça, c'est important de le répéter parce qu'il y a beaucoup de personnalités publiques, personnalités connues qui s'expriment parce qu'ils ont un enfant qui a été diagnostiqué avec un TSA ou encore eux-mêmes l'ont été. Ils s'expriment sur de grandes tribunes publiques, parlent de leur réalité, de leur vécu. Et j'ai l'impression que le grand public identifie l'autisme à cette personne-là.
Oui, c'est ça. Il faut briser, en fait, les idées préconçues de l'autisme aussi, qui est très associé à l'enfance. Mais ces enfants-là grandissent, deviennent des adultes qui sont tout autant autistes. Hein. On est autiste, on meurt autiste. C'est pas quelque chose qui peut disparaître. On ne guérit pas l'autisme. On ne vise pas du tout à guérir, d'ailleurs. C'est une condition neurodéveloppementale, neurologique, qui est permanente. Donc, il faut juste apprendre à vivre avec et adapter certaines choses. Mais il faut garder en tête justement qu'il n'y a pas deux autistes pareils, mais que les combats intérieurs demeurent malgré le peu d'apparence extérieure.
Mm-hmm. Est-ce que ça vous rassure depuis les 10-15 dernières années, les recherches qui affluent, l'intérêt que l'on a envers l'autisme?
Oui, c'est rassurant, c'est sûr. Ce qui est encore plus rassurant, c'est de voir de plus en plus de personnes autistes fiers de leurs conditions, qui veulent s'intégrer. On a des étudiants à l'université autistes, on a des chercheurs autistes, on a des médecins autistes. Donc, ça, c'est une grande fierté pour moi comme chercheur, que ce soit plus une honte. Ça demeure un handicap, mais c'est des gens qui ont des grandes forces et il faut miser justement sur ces forces-là et c'est ça qu'on veut voir émerger. Mm-hmm.
Est-ce que la trousse a été testée, que ce soit par des intervenants, des spécialistes de la santé des parents jusqu'à maintenant, Marie-Hélène Poulin?
Oui, en fait, on l'a présenté à plusieurs groupes de personnes, les services de garde, les milieux scolaires, les intervenants en centre de réadaptation en autisme et en déficience intellectuelle. On a eu des témoignages de parents aussi, d'adultes autistes qui ont été en contact avec la trousse, des gens d'Europe, des gens du Congo. On a eu des gens d'un peu partout, en fait, qui apprécient les outils. C'est sûr que c'est pas parfait puis que ça va avoir une durée de vie peut-être restreinte, mais l'idée étant d'avoir au moins quelque chose. Il existait très peu d'outils de sensibilisation. La Fédération québécoise de l'autisme fait un excellent travail, mais évidemment, c'est des outils qui demandent du temps et du financement à montrer. Oui. Et c'est un de plus, en fait, mais il en existait très peu.
Oui. Et bon, s'il en existe très peu ici, vous avez parlé du Congo tout à l'heure, il en existe peut-être encore moins ailleurs.
Oui, en effet, je pense que le monde a vraiment un œil sur ce qui se passe au Québec par rapport à l'autisme et on inspire beaucoup. C'est ça aussi, c'est une grande fierté pour nous. Mais on s'inspire aussi derrière le Royaume-Uni, par exemple, avec tout le développement de théories liées à l'autisme, comme la théorie de l'esprit, sont aussi avant-gardistes là, en recherche.
Mm-hmm. Où on peut se procurer cette trousse de sensibilisation, Marie-Hélène Poulin?
En fait, en allant consulter ma page sur le site de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, donc qqat.ca, en tapant mon nom dans le bottin, vous allez tomber sur ma page web de chercheurs et de professeurs. Et dans l'onglet « Projet de recherche », l'outil est complètement téléchargeable en version Mac ou PC. Et si vous avez des difficultés à télécharger à cause d'Internet...
Oui, c'est lourd aussi. C'est quand même lourd comme document.
Oui, quand même. Oui. À ce moment-là, juste à m'écrire un courriel et je vais vous envoyer gratuitement par la poste un CD exécutable que vous allez pouvoir insérer dans votre ordinateur ou un lecteur DVD.
C'est ça, c'est important de le mentionner. Elle est gratuite, la trousse.
Tout à fait. Tout est gratuit.
Et pensez-vous y amener, vous parliez tantôt de peut-être des études ou y amener des modifications ou des améliorations à travers le temps?
Ça pourrait être possible. En fait, ça change tellement vite présentement en autisme que on se doutait que ça vieillirait peut-être pas très, très bien. Mais probablement que ça va être un renouveau assez complet là, d'ici quelques années. Présentement, la trousse semble satisfaire le besoin. Donc, à court terme, je penserais pas, mais... on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve.
De toute façon, on n'est pas très inquiet. On sait que vous allez nous concocter autre chose, Marie-Hélène.
Oh mon Dieu, oui,
dans
votre projet.
Vous êtes professeure en psychoéducation et directrice du module des sciences du comportement de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Toujours un plaisir de vous parler. Merci.
Pareillement, bonne journée.
Un horaire un peu bousculé aujourd'hui. On aime ça changer. Ça fait du bien parfois de sortir un peu de ses pantoufles. Donc, c'est aujourd'hui que je vous présente, en fait, pas aujourd'hui, mais en ce moment, que je vous présente mon coup de cœur. Mon coup de cœur à chaque semaine. Et aujourd'hui, j'y vais avec un documentaire que vous pouvez trouver aisément sur le site de Télé-Québec qui s'intitule « L'art fait du bien 2 ». « L'art fait du bien 1 » a été diffusé en 2013. C'est une réalisation et une production de Jean Sébastien Ouellet. Et on y va avec une grande question pour mettre la table. Comment la découverte, la pratique, l'amour des arts, l'intérêt qu'on y porte, que ce soit notamment art du cirque et du théâtre, peut faire une différence dans la vie des gens. On suit le parcours de différentes personnes qui sont réelles et qui vivent avec différentes réalités, que ce soit des conditions physiques ou d'ordre de santé mentale assez particulières, ou des situations socio-économiques également plus marginalisées. Et grâce à l'expression artistique, ces personnes-là amenuisent leurs difficultés au quotidien. Ils apprennent à être plus autonomes, à développer une meilleure santé, meilleure estime de soi, de meilleurs liens interpersonnels aussi. Entre autres, dans les personnages qui m'ont bien touchée, Jessica, elle vit avec des problèmes de santé mentale, a même déjà filtré avec des pensées suicidaires et elle fait du théâtre, ça lui fait un grand bien. D'ailleurs, elle s'est révélée dans une pièce de Michel Tremblay, montée par Lorraine Pintal, ce qui n'est pas rien. Donc, on comprend en collaboration avec le TNM, et ce, dans le cadre d'un programme de l'Institut universitaire en santé mentale. C'est magnifique de l'avoir se développer et d'avoir eu accès à cette nouvelle passion qui l'habite. Aussi, Jacinthe, qui, elle, est affectée par un accident vasculaire cérébral, maintenant aphasique. Elle a trouvé une autre façon de s'exprimer par le théâtre. Elle fait du théâtre avec le théâtre aphasique. Et en terminant aussi, une autre jeune fille qui, elle, s'appelle Maude. Elle fait le programme de cirque social du côté de l'Institut de réadaptation, du Centre de réadaptation Lucie Bruneau. Ça lui permet de développer son autonomie, de rencontrer d'autres gens. Elle n'en dit que du bon. Et d'ailleurs, nous, on a rencontré l'ergothérapeute derrière ce projet, Frédéric Loisel. Il y a énormément de bon qui ressort du cirque social pour les jeunes qui vivent avec une déficience physique. Dans ce documentaire, il y a aussi des artistes qui s'expriment, qui parlent de la place des arts, de la scène dans leur vie, mais aussi dans la société et de quelle façon ça les a modifiés en tant que citoyens, de quelle façon ils sont devenus de meilleurs citoyens, de meilleurs penseurs, de meilleurs humains. On peut entendre, entre autres choses, Dominique Champagne, Michel Tremblay, Lorraine Pintal, Benoît McGuinness. Il y a aussi des intervenants de la santé qui sont là pour appuyer les propos et de voir à quel point la présence de l'art, et ici on parle d'art du cirque et de théâtre, là, principalement, comme je le disais, devient une planche de salut complètement pour ces personnes. Donc, ergothérapeute, physiatre, psychologue. Et il est super accessible, c'est gratuit. Vous allez au télé-québec.tv/documentaire. L'art fait du bien 2. C'est une trilogie, je ne savais pas. Donc, deuxième volet d'une trilogie. La troisième partie de ce documentaire va porter sur la musique et la danse. Mais c'est très émouvant. C'est un très beau moment, 52 minutes de pur bonheur et de constater qu'il y a plein de façons de se faire du bien. On parle beaucoup à travers, c'est bon pour la santé, de médicaments, de science, mais parfois il y a des choses différentes qui peuvent nous amener plein de choses très, très enrichissantes. On se retrouve après cette courte pause. Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé. Tout à l'heure, Joanne Savard, directrice de l'Association de la vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle, sera au bout du fil. Elle nous parle des défis qui attendent, en matière de santé, bien sûr, là, les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, mais les personnes âgées, donc prendre de l'âge, mais aussi vivre avec une déficience intellectuelle, ça amène beaucoup de défis et il faut y penser en tant que société. Cette association AVRDI a mis quelques structures en place, pour aider ces personnes qui prennent de l'âge. Mais pour le moment, Dr. Philippe Archambault est au bout du fil. Bonjour, Philippe Archambault.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie à l'Université McGill et chercheur pour le CRIR. C'est une façon un peu plus courte de dire centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation.
Exactement, oui.
On parle aujourd'hui ensemble des technologies au service de la réadaptation et c'est important d'entrée de jeu, je pense, de dire que vos recherches évoluent au sein du Living Lab ou du laboratoire vivant et je pense qu'il faut expliquer ce que c'est le laboratoire vivant là, chez Alexis Néon pour les gens qui nous écoutent.
Bien oui, c'est un projet qui regroupe la plupart des chercheurs du CRIR, donc des chercheurs affiliés à l'Université de Montréal, à McGill, à l'UQAM, d'autres établissements aussi. Et puis, en fait, on est en partenariat avec la Plaza Alexis Néon qui nous ouvre leurs portes pour qu'on puisse faire des expériences dans les lieux. Donc, ça a été de faire des expériences sur l'accessibilité, sur la formation des employés, sur l'utilisation des lieux par des personnes qui avaient de la mobilité réduite et toutes sortes d'autres projets là, donc, qui ont pu avoir lieu là-bas puis continuent d'avoir lieu aussi.
Il y a à peu près 60 projets, je pense, Philippe Archambault.
Oui, tout à fait. Il y a une soixantaine de projets donc qui se sont déroulés sur les 4 dernières années, si je ne me trompe pas. Et puis, ça allait autant au niveau social que physique. L'utilisation des technologies était impliquée là-dedans. Donc, ça on ratissait quand même assez large.
Bon, dont le vôtre, et on est là pour parler de ce jeu qui s'appelle MIWI. Est-ce que je le prononce comme il faut?
Oui, c'est ça. C'est l'acronyme que j'ai donné. C'est en fait un simulateur de conduite en fauteuil motorisé. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir un outil qui permet aux gens de pratiquer différentes tâches de fauteuil motorisé à leur domicile sur une application, un logiciel d'ordinateur.
Donc, le jeu s'adresse à des gens qui vivent avec une déficience physique.
Oui, donc déjà, on s'adresse vraiment à des gens à des nouveaux utilisateurs de fauteuils roulants.
Okay.
Souvent, il peut y avoir une longue période, une fois que les gens se font attribuer un fauteuil avant qu'ils le reçoivent. Des fois, ça peut demander quand même un certain apprentissage, une certaine confiance en soi pour sortir aussi, puis pour aller dans d'autres lieux. Et puis, on vise vraiment là, à donner un complément là, à l'entraînement qui peut être donné en centre de réadaptation.
De quelle façon le jeu permet de mieux se dépatouiller avec un fauteuil roulant?
Ben, on a le lien avec le Living Lab, avec la Plaza Alexis Néon, c'est qu'on a vraiment procédé par des entrevues avec des utilisateurs de fauteuils roulants, avec des cliniciens. Donc, on les invitait au centre d'achat. Puis, ça nous servait un peu de prétexte pour parler avec eux, avec ces gens-là, puis avoir leur opinion sur qu'est-ce qui était problématique, qu'est-ce qui était un défi, surtout pour les nouveaux utilisateurs. Et puis, à partir de ça, on a pu constituer différents scénarios pour notre application. Par exemple, on a essayé de faire ça vraiment le plus concret possible. C'est pour ça qu'on demandait aux gens beaucoup de détails. Donc, on a une salle de bain adaptée, on a un genre de hall dans un centre d'achat où il y a beaucoup de gens, donc pour apprendre à circuler dans une foule. On a un ascenseur qui est souvent qui peut être difficile à cause de c'est un espace un peu restreint. Et puis des fois, s'il y a d'autres gens présents qui font pas nécessairement attention. On a un supermarché aussi où la personne doit circuler à l'intérieur puis faire ses courses un peu là. Puis donc elle a une liste d'épicerie et puis qu'elle doit remplir. Alors c'est un peu toutes sortes de mini-jeux là. Chacun dure autour de 2 minutes à peu près maximum et puis comme ça avec des éléments de jeu donc un peu aléatoire pour que ce soit pas trop répétitif
et que ce soit réel aussi.
Ouais.
Ce sont des mises en situation qui peuvent réellement arriver dans la vie. Il y a des niveaux de difficulté qui sont différents. De rencontrer ces personnes qui vivent avec une déficience physique, Philippe Archambault, ça vous a permis, j'imagine, de mieux connaître leurs besoins. Qu'est-ce que vous avez retenu?
Ben, c'est vraiment une richesse. Je pense que c'est la première. Moi, c'est quelque chose, une façon de faire à laquelle je crois beaucoup. En anglais, on dit le user-centered design, un design centré sur l'usager. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment d'impliquer les gens dans le développement de technologies. Puis je pense que ça nous ouvre les yeux. On peut lire des choses, on peut s'imaginer selon notre expérience clinique, mais des fois, la façon dont c'est vécu par les gens, ça peut être assez différent. Même en clinique ou en recherche, on peut avoir notre perception, mais quand c'est transmis dans la réalité, ça donne beaucoup d'autres choses. Là. Par exemple, je pense qu'une des choses qui m'avait frappé, un des points qui m'avait frappé dans les entrevues, c'est à quel point plusieurs personnes nous disaient que des fois l'imprévu qui peut les surprendre ou qui peut les rendre une situation encore plus compliquée. Ouais. Par exemple, une boutique ou un supermarché peut être accessible généralement, mais là, c'est la période des fêtes et puis il y a des kiosques de plus ou il y a des présentoirs de plus, puis soudainement, ben ça passe plus ou ça passe pas comme ça passait d'habitude. Alors, des fois, ça, c'est quelque chose auquel je n'avais, par exemple, pas pensé du tout.
Oui, c'est ça. Et c'est une façon aussi, ça, c'est intéressant, de sensibiliser les commerçants à la réalité des personnes qui vivent en situation de handicap. Est-ce que vous avez eu un retour d'eux également?
Au niveau des commerçants, non. On n'a pas. Non, c'est pas. J'avoue que c'est pas quelque chose qu'on a fait. Il y a d'autres projets où ils ont regardé ça. Ils ont fait de l'entraînement, ils ont offert une formation aux commerçants pour les aider à accueillir des gens qui avaient différentes incapacités, que ce soit au niveau mobilité ou audition ou visuel, pour finalement un peu apprivoiser ces situations-là. Puis je sais que ça a donné des assez bons résultats. Les gens se sentaient beaucoup plus en confiance. Puis les personnes avec déficience se sentaient plus à l'aise aussi dans ces commerces-là.
Quels sont les obstacles rencontrés le plus souvent par des personnes qui débutent ou commencent à utiliser un fauteuil motorisé?
Ben, ce qui sortait beaucoup, ressortait beaucoup, c'est vraiment les espaces exigus, comme les salles de bain, des fois qui peuvent être indiquées comme adaptées, mais qui ne sont pas nécessairement. Quand il n'y a pas beaucoup d'espace pour manœuvrer, c'est compliqué. Les gens, les foules aussi, c'est une crainte, parce que les gens ne veulent pas rouler sur des orteils là, même faire blesser du monde parce que qui les voit pas ou qui passe trop vite. On peut dire que même dans un espace exigu, bon, on peut dire au pire, on va foncer dans le mur ou quelque chose comme ça, mais les gens veulent pas non plus, même si c'est que des dommages matériels, veulent pas non plus faire des égratignures puis endommager des cadres de porte puis des choses comme ça. Alors, c'est normal. Les gens sont respectueux de l'environnement. Et puis...
Il y a la crainte de se blesser aussi, peut-être, parfois.
Il y a la crainte de se blesser, effectivement.
Ben oui.
Mais c'est beaucoup aussi la crainte de rester pris, surtout si les gens voyagent tout seuls. Ils ont des problèmes de la mobilité réduite. Ils veulent pas avoir appelé le dépannage. Il y a des services de dépannage qui existent, mais je pense que la plupart des gens voudraient éviter d'être dans des situations où ils pourraient rester pris pendant des longues minutes ou des heures parce qu'ils sont dans une situation où ils sont pas capables de...
Oui, il y a un désir d'autonomie assez grand derrière tout ça aussi.
Tout à fait, oui.
Ça, c'est important, vous y contribuez, notamment avec MiWi, qui, justement, est distribué de quelle façon? Est-ce que vous envisagez ça?
Pour l'instant, le projet de recherche se termine, donc on n'est pas encore en train de faire du développement, mais tant que ça reste un projet de recherche, je le garde un peu dans notre équipe. Mais après ça, le but, ce serait vraiment de le distribuer probablement au début à travers les centres de réadaptation au Québec et ailleurs, qui, eux, pourront le gérer comme bon leur semble, soit faire ajouter ça à leur problème, programme d'entraînement ou bien peut-être le distribuer aux personnes. La seule raison qui me retient un peu de distribuer
le jeu
de façon générale, c'est juste que j'ai pas les moyens d'offrir le support technique.
Ouais.
Donc toute l'installation puis
l'argent, le nerf de la guerre.
Ouais, ben c'est plus les ressources que peut-être un peu l'argent là, mais C'est sûr, je pourrais le distribuer sans garantie, hein, mais ouais. J'aimerais m'assurer quand même que ça fonctionne.
Si vous avez fait, Philippe Archambault, 50 entrevues, c'est qu'il y a 50 usagers en ce moment qui profitent du jeu et qui peuvent explorer davantage les différentes facettes là, pour pouvoir utiliser de meilleure façon un fauteuil motorisé?
Oui, dans le projet de recherche, bien, il y a différentes phases. Donc, les premières phases où on a fait des entrevues, puis ensuite, ça nous a permis de développer le jeu, l'application, puis une autre phase où on a ciblé des nouveaux utilisateurs de fauteuils roulants qui, eux, l'utilisent, puis on regarde les effets que ça a sur leurs habiletés de conduite.
Mm-hmm. En terminant, Philippe Archambault, vous êtes à la fin de cette recherche-là. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous en matière de recherche en ce moment avec votre équipe?
Il y a plusieurs projets, mais pour continuer avec le simulateur, on essaie de faire une version pour le fauteuil manuel et puis aussi une version pour les scooters électriques.
Ah, c'est donc bien chouette, ça.
Ouais, ouais, ouais.
Vous allez revenir pour nous en parler?
J'espère bien. Pour l'instant, on est vraiment plus au niveau technique. C'est en fait un peu plus compliqué au niveau de la mécanique, si je peux m'exprimer comme ça. Mais donc, ça va peut-être prendre quand même un certain temps avant d'avoir un produit qu'on pourra tester. Là, mais on se dirige vers ça.
Vous pourriez le tester avec notre metteur en onde. Il fait Repentigny, Montréal, tous les matins avec son scooter.
Vraiment?
Docteur Philippe Archambault, vous êtes professeur agrégé à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie à l'Université de Montréal et chercheur au CRIR. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Merci, au revoir.
Joanne Savard, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directrice de l'Association de la vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle et là pour nous parler des défis qui attendent les personnes âgées qui vivent avec une déficience intellectuelle. Et je lisais, je trouvais ça assez intéressant. L'un des principaux obstacles, c'est les signes de vieillissement qui sont plus difficiles à dénoter.
Oui. Bien, en fait, difficile à dénoter pour eux qui vivent avec une déficience intellectuelle. C'est sûr que pour nous, c'est des signes quand même assez évidents. Mais pour eux, c'est pas toujours évident, effectivement. Donc, ils se rendent pas toujours compte que leur corps change et qu'ils n'ont plus les mêmes capacités, en fait. Fait que c'est un peu ça le nouveau défi. Et c'est un peu là où nous, on s'est penché sur la situation pour essayer de les aider à mieux vieillir, en fait.
Oui, c'est leur perception d'eux-mêmes qui est pas tout à fait juste.
Exactement.
Oui. Et aussi une façon, peut-être aussi pour vous, pour certains médecins, les proches, différents spécialistes de la santé, de communication, ils expriment peut-être moins leur douleur ou les changements qui se passent dans leur processus.
On s'est rendu compte depuis les dernières années même de ça que pour ceux qui sont justement pas diagnostiqués à temps, que leur départ est assez rapide pour certains. Puis c'est sûr que pour certains aussi, le seuil de douleur n'est pas toujours le même. Donc c'est évident qu'il y en a pour plusieurs que c'est pas facile pour eux de s'exprimer avec pour leur douleur. Quand ça fait vraiment mal, souvent ils rendu trop tard, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est un petit peu la nouvelle réalité, en fait.
Est-ce qu'ils vivent davantage avec certaines maladies chroniques ou problèmes de conditions de santé?
C'est sûr que pour certains, je te dirais que nous, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est sûr que on dirait qu'ils passent un petit peu plus par-dessus. Je pense que ça serait peut-être un bon côté de la situation, si tu veux. Mais on dirait que c'est plus facile pour eux d'en faire abstraction, en quelque part. Souvent, ils vont, je pense, plus mieux s'adapter au fait que s'ils ont de la douleur, ils n'en parlent pas. Donc, ils continuent quand même leur quotidien. Chose à faire, en fait, quand on file pas. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de... C'est sûr que quand on s'en rend compte un petit peu plus et qu'on investigue un petit peu plus, ben c'est clair que là, on peut se rendre compte de certaines situations et alléger un petit peu certaines douleurs. Mais c'est sûr qu'il faut être très vigilant parce que malheureusement, c'est pas si évident que ça de détecter les maladies chroniques ou même des maladies qui arrivent spontanément.
Oui. Est-ce que les personnes que vous rencontrez, ces personnes âgées qui vivent avec une déficience intellectuelle, sont plus confrontées à de l'isolement?
Je vous dirais que oui. C'est sûr que notre réseau fait en sorte que la plupart de ces gens-là vont vivre peut-être dans des familles d'accueil qui ont pour mission d'un petit peu faire le boulot, si vous voulez, là, de les divertir. Mais c'est pas toujours évident. Pour certains, ils en ont plusieurs avec des particularités quand même assez complexes pour certains. Donc, d'autres demandent un petit peu plus d'attention. C'est bien certain.
Oui.
Donc, c'est là où que le défi vient difficile de pouvoir leur donner justement ces besoins-là. Là. C'est sûr qu'ils ont besoin de
stimulation.
De stimulation, surtout de rencontrer leur père, de sortir dehors, d'avoir encore une vie active aussi. Donc, ça, c'est pour nous, c'était pas mal le point important.
Mm-hmm.
Donc, de vraiment aller les chercher dans leur famille d'accueil et de vraiment les sortir, les divertir, puis de pouvoir continuer justement à travailler certaines choses avec eux, justement. Donc, au niveau de l'apprentissage, on s'entend qu'on y va pas trop fort là-dessus. Mais au niveau de conserver les acquis, ça, c'était très important.
Oui.
Parce qu'on s'entend que ça va retarder un certain processus. C'est prouvé là, que des personnes qui gardent une vie active vont justement mieux vieillir et rester en forme plus longtemps. Ça fait qu'on éloigne les CHSLD, on éloigne les hospitalisations.
Mm-hmm.
Puis on éloigne aussi, parce qu'un nouveau, pas un nouveau phénomène, mais je veux dire que les gens sont pas toujours conscients que la dépression arrive aussi chez les personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
Ah ouais, non, c'est vrai.
Mm-hmm. On comprend pas toujours qu'est-ce qui arrive, mais souvent, ça peut être juste ça, le fait qu'ils changent de vie, qu'ils sortent un peu, qu'ils voient d'autres mondes, qu'ils pensent à autre chose. On ne sait pas toujours qu'est-ce qui se passe dans leur tête, hein, puis à quoi ils pensent. Mais donc, à se garder occupé, ben définitivement, on voit un gros, gros, gros changement.
Et on évite aussi une prise de médicaments.
Ben oui, effectivement, oui.
Parmi ces services spécialisés que vous offrez à travers l'Association de la vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle, il y a cette stimulation-là, je le comprends bien. Est-ce qu'il y a autre chose, Joanne Savard?
Vous voulez dire autre service qu'on offre pour les personnes
oui,
âgées?
Oui, dans okay. vos approches et les actions que vous portez avec eux.
Bien, en fait, tu vois, ce programme-là est nouveau. C'est
oui.
Avec l'aide du ministère de la Famille qu'on a pu avoir accès à ces sous-là pour décoller un peu ce projet-là qui nous tenait tant à cœur. Ça fait déjà quand même quelques années qu'on est conscient, mais on ne trouvait pas la possibilité de pouvoir y répondre. Ça fait que là, c'est tout nouveau, qu'on a vraiment un local adapté pour eux à faire différentes activités, puis ils vont même jusqu'à faire des sorties aussi.
Mm-hmm.
Donc, ça, c'est le fun. Puis le lieu qu'on a trouvé aussi, ce que je trouvais intéressant de ce lieu-là, c'est que c'est des locaux qui appartiennent à la municipalité. Donc, c'est un centre de loisirs.
Mm-hmm.
Fait que nos personnes âgées, quand même, gardent un contact avec la population. Donc, ce qui pour nous, quand même, est important aussi quand on parle de l'aspect aussi intégration sociale à travers la communauté. Donc, ils côtoient, je veux dire, du personnel de la municipalité. Ils vont côtoyer aussi des jeunes parce que dans cet établissement-là, il y a des jeunes enfants qui viennent suivre des cours de gymnastique artistique, exemple. Et l'été, c'est des camps de jour pour les tout petits. Fait que il y a un petit mélange, le fun, tu sais, qui peut leur permettre de d'interagir avec notre clientèle. Puis tout le monde en bénéficie, en fait.
Ça représentait quel pourcentage de votre clientèle, ou ça représente, là, on parle au présent, de personnes âgées qui vivent avec une déficience intellectuelle?
Ça en représentait quand même pas mal, beaucoup. Je te dirais que, parce que notre organisme existe depuis 50 ans, mine de rien. Donc, on avait ce qu'on pourrait dire une clientèle, on peut les appeler historiques, si tu veux. Parce qu'écoute, j'ai certains membres ici qui fréquentent l'AVRDI depuis plus de 30 ans, imagine. Fait que nous, on les a vus participer à toutes nos activités, toutes nos sorties, toutes nos choses, et on les a vus graduellement vieillir. Et, et ça représentait, je te dirais, jusqu'à 10 à 15 % de notre clientèle facile.
Et en même temps, ces services spécialisés-là, ces approches-là devront être mis en place partout, parce que la déficience intellectuelle, ça va doubler dans les prochaines années. Ces personnes-là vont vieillir aussi.
Oui, ben en fait, c'est le réseau de la santé, je pense qu'on n'a pas vu venir la situation. Ouais. Juste pour te donner un exemple à quel point ils n'ont pas vu venir la situation, là, c'est que c'est clair que pour à la base, par contre, il faut comprendre aussi que la déficience intellectuelle, ça fait à peu près juste 40 ans. C'est pas vieux, c'est pas beaucoup 40 ans qu'on a compris qu'on pouvait les stimuler, puis qu'ils pouvaient apprendre à faire plein de choses, puis qu'ils pouvaient avoir une vie, somme toute, assez normale, tu sais. Donc, à partir de ce moment-là, la population ou les services de santé, en tout cas, on était mal préparés, parce qu'avant ça, leur espérance de vie, on le sait tous, qui était plus diminuée. Tandis que là, on se rend compte que, écoute, moi, mon doyen, il a 74 ans, puis tu le regardes aller, puis il y en a encore pas mal dedans. C'est vraiment cute de le voir aller, tu sais. Mais c'est un peu ça, donc, qu'on s'est rendu compte. Et pour te donner la preuve de ça, c'est que quand j'ai fait ma demande au ministère de la Famille, je ne sais pas combien le Québec, combien d'organismes différents ont pu faire des appels de projets, mais sur 200 qui ont été retenus, moi, je les ai toutes passées une après l'autre pour voir qui avait fait des demandes. C'était tout, des regroupements de personnes âgées, des organismes auprès de personnes âgées, Alzheimer, toutes sortes de choses, des tables de concertation. Bon. Mais dans les 200 qui ont eu des subventions, on était les seuls qui œuvraient auprès des personnes déficientes intellectuelles.
Oui, c'est que vous couvrez deux volets, personnes âgées et personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Et on se rend compte qu'il y a des besoins. Et de votre côté, il y a des services. Joanne Savard, vous êtes directrice de l'Association de la vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle, la VRDI. Merci beaucoup.
Ça me fait bien plaisir.
Et on termine cette émission avec la revue de presse d'Anne-Laure Janson, recherchiste de cette émission. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Marianne. Alors oui, petite revue de presse à la fin d'émission, une fois n'est pas coutume.
Et voilà, et on est encore dans l'actualité avec l'Halloween qui s'en vient. On termine avec le sujet avec lequel on a commencé l'émission, et c'est l'Ordre des optométristes du Québec qui lance un avertissement cette fois-ci.
Oui, c'est ça, pour éviter une histoire d'horreur à Halloween, titre Info Dimanche. Plusieurs Québécois sont encore à la recherche peut-être de leur déguisement, et certains se procurent des lentilles cornéennes cosmétiques afin d'y ajouter la touche finale. Et l'Ordre des optométristes du Québec les met en garde contre les risques associés au port de ce type de lentilles. Ces risques ont par ailleurs été reconnus en juillet par Santé Canada, qui a réglementé les lentilles cosmétiques. L'Ordre des optométristes salue cette initiative qui survient après des analyses poussées sur les risques pouvant être associés à ce port de lentilles cornéennes cosmétiques, et ce même de façon temporaire.
Ah oui.
Plusieurs cas d'infection majeures survenues après un seul usage de ces lentilles sont par ailleurs répertoriés dans la littérature scientifique. Il est donc recommandé, avant de procéder à leur achat, de consulter un optométriste, parce que les porteurs de ce type sont plus à risque d'avoir une irritation ou une infection oculaire que les porteurs de lentilles cornéennes régulières.
Très bon à savoir. Maintenant, pilules et risques de dépression pour aller de pair.
Oui, une étude danoise qui démontrait que la pilule contraceptive augmente de 80% le risque de dépression chez les adolescentes. Jusqu'à maintenant, les études avaient été contradictoires sur le sujet, mais le panel de sujets, de personnes étudiées, en fait, comprenait des femmes qui en prenaient depuis très très longtemps. Donc là, cette étude, c'est 1 million de Danoises de 15 à 34 ans qui ont été, dont les dossiers ont été analysés. Et le risque moyen augmentait de 23% et était plus élevé chez les jeunes et dans les mois suivant le début de la prise de la pilule. Il fallait entre 4 et 10 ans de prise de pilule pour que le risque de dépression retombe. Donc, c'est des précautions à prendre pour les adolescentes qui ont déjà pris des antidépresseurs ou qui ont déjà eu une détérioration marquée de leur humeur.
Oui, parce que ça ne toucherait pas nécessairement des femmes qui en prennent depuis longtemps.
Non,
là.
Après 4 ans, le risque tombe à zéro.
OK, bon à savoir. Et en terminant, ça j'aime beaucoup ça, moi qui adore le théâtre, des pièces de Shakespeare pour aider les enfants autistes.
Oui, comment La Tempête de Shakespeare peut aider les enfants autistes? Alors c'est une actrice britannique qui en 2003, une actrice de la Royal Shakespeare Company, a créé une méthode thérapeutique qui utilise les pièces de Shakespeare, souvent très débordantes d'émotions, pour aider les enfants à mieux comprendre ses émotions et la communication non verbale. Alors, les ateliers sont supervisés par des acteurs, durent 1 heure et commencent par une série de « hello » proclamés alors que les participants marquent le rythme des battements de leur cœur sur leur poitrine, tout en se regardant dans les yeux. Kelly Hunter, l'initiatrice de cette méthode, a décidé d'utiliser La Tempête pour ses ateliers car la pièce regorge d'émotions particulièrement intenses. Pendant des années, ce programme était utilisé. Et là, des chercheurs en psychologie de l'Ohio State University ont publié une évaluation très positive et scientifique de la méthode.
Oh, encore, on fait un lien avec L'art fait du bien, hein, le documentaire dont je parlais tantôt et des arts de la scène, à quel point ça peut aider des gens qui vivent avec soit des problèmes de santé. Eh bien, tout est dans tout, on dirait, aujourd'hui. Merci Anne-Laure Janson.
De rien.
Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de C'est bon pour la santé. C'était Jean-Sébastien Laliberté, son scooter. Derrière sa console, c'est Anne-Laure Janson à la recherche. Christiane Campagnan s'occupe des médias sociaux. Je vous invite à consulter notre site canalm.vusezvoix.com. Également, à nous joindre, on est présent sur Twitter, on est présent sur Facebook. Et le téléphone, c'est le 1-800-361-0635, poste 220. C'est Marianne Paquette. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Bye-bye.